Lecture par tous.
C'est un dialogue.
L'émission qui vous parle des livres.
C'est une gymnastique intellectuelle extrêmement bénéfique pour le cerveau.
Des métiers du livre, des lecteurs.
Les jeunes n'ont pas perdu le goût de la lecture.
Et de leur lecture. Lecture par tous à Divergence FM 93.9. Nous sommes toujours là. Nous, et oui, alors à nous, nous sommes nombreux. Nous sommes 5 dans le studio aujourd'hui. Donc ça va être un bazar. Et oui, on va continuer le bazar. On avait fait un petit bazar la dernière fois. Et rappelez-vous, si vous nous avez écoutés, on n'avait pas réussi à parler de tout ce qu'on voulait. Alors je ne sais pas si on y arrivera cette fois. En tout cas, on va enchaîner. Hein, puis là, c'est bien la période des bazars. C'est le bazar pour aller acheter des livres en ce moment. Il y a du monde partout dans les librairies. C'est bien d'avoir du monde dans les librairies d'ailleurs. Hein. Hein, ça fait plaisir d'avoir du monde, de voir du monde dans les librairies. Alors, allez, autour du micro, vous entendrez François Chabot. Bonjour François.
Bonjour Marc.
Vous entendrez Hélène Honora. Bonjour, bonjour Hélène.
Bonjour Marc.
Et comme nous avons la parité parmi nos invités, François, un monsieur, Hélène, c'est une dame, et bien maintenant un monsieur, Pierre Beautemps sera aussi là pour nous parler de Raja Rao. Et Laurence Holvout. Bonjour Laurence.
Bonjour à tous.
Et puis Marco Sorine. Voilà. Alors. François, tu allais nous parler d'un livre sur Pierre Soulages lorsque la cloche de fin d'émission a sonné.
Alors oui, c'est un livre paru chez Verdier. La première édition était chez Farago en 99. Et donc c'est Jacques Laurence qui le signe. Ça s'appelle Pierre Soulages, Trois Lumières.
Voilà, rappelons, hein, Pierre Soulages, une collection qui s'enrichit au musée Fabre. Donc à aller voir.
Alors il y a dans ce petit... Six livres de Verdier en poche, Trois Lumières, Pierre Soulages, La transparence du noir, Quelques années plus tard, La lumière du ciel, puis L'interprétation du noir, Le calme après la tempête, Passage aux extrêmes. Donc Jacques Laurence est poète, et donc c'est en tant que poète qu'il fait une lecture de l'œuvre de Pierre Soulages, qu'il côtoie depuis de longues années, et il s'est rendu notamment au domicile de Pierre Soulages au Mont-Saint-Clair, à 7. Et je vais vous lire un extrait. En somme, plus d'ombre que de lumière, l'ombre peut s'épaissir. La lumière, plus rare, n'en devient que plus intense. De Marcel Arlan, La lumière du soir. Lorsqu'une seule couleur fait le tableau, que les autres s'effacent jusqu'à l'oubli, et si pour mieux signifier la décision, cette couleur élue est le noir, alors la peinture règne nécessairement, organiquement, sous l'influence du monde visible, de sa substance et de son climat. La perspective des choses définitivement disparue. L'œuvre se présente d'égal à égal avec le dessin du monde. La peinture n'est plus simple objet du dehors, un sujet de contemplation rival du réel, mais un réel distinct et unique dont l'essence véritable ne se rapporte qu'à elle-même. Cette sensation, je l'ai effectivement éprouvée comme une découverte lors d'une visite chez Pierre Soulages à 7. Et sans doute me fallut-il attendre jusqu'à cette nuit d'été, jusqu'à cette heure exquise et si calme, pour m'approcher plus entier de cette œuvre, pour la goûter hors du seul commentaire esthétique.
Alors, voilà, donc, petit livre sur Pierre Soulages.
Oui, avec des inédits qui n'étaient pas dans Farago et qui ont été ajoutés pour cette édition de 2019.
Voilà, voilà donc qu'on peut lire pour accompagner la visite du musée Fabre et voir les toiles de Pierre Soulages. En plus, le livre est petit, vous pouvez même le prendre dans la poche et le découvrir, le feuilleter devant les œuvres. Alors, tu voulais aussi nous parler d'un auteur italien, Antonio Gramsci.
Antonio Gramsci, c'est un livre qui s'appelle « Pourquoi je hais l'indifférence », qui est publié chez Rivage Poche, la petite bibliothèque. Et bon, comme engagement, Antonio Gramsci est un des personnalités européennes les plus influentes. Et je vais vous lire juste une partie des indifférents. « Je hais les indifférents ». Comme Friedrich Ebel, je pense que vivre, c'est résister. Il ne peut y avoir seulement des hommes, des étrangers à la cité. Un homme ne peut vivre véritablement sans être un citoyen et sans résister. L'indifférence, c'est l'aboulie, le parasitisme, et la lâcheté, non la vie. C'est pourquoi je hais les indifférents. L'indifférence est le point mort de l'histoire. C'est le boulet de plomb de l'inventeur. La matière inerte où s'enfoncent les enthousiasmes les plus éclatants. Le marécage qui entoure l'ancienne cité et la défend mieux que les murailles les plus solides. Mieux encore que la poitrine de ses guerriers. Parce qu'il engloutit les assaillants dans ses coulées de limon. Parce qu'il les décime et les décourage jusqu'à les faire renoncer parfois à leur entreprise héroïque. Donc, c'est une série de... C'est un essai, si on veut, avec beaucoup de volonté pour ce peuple italien qui a été aussi cruellement touché par la dictature.
Bien, donc, Antonio Gramsci, Pourquoi je hais l'indifférence, et c'est publié chez, dans la collection Rivage, et même c'est en Rivage Poche, donc un investissement raisonnable, on va dire. Hein. Merci François. Hélène, tu vas nous parler d'une auteure, alors je découvre totalement le nom, il y a plein de choses à découvrir, c'est normal. Colombe Schneck, tu vas nous parler de deux titres de cette auteure.
Oui, je suis contente que tu découvres, parce qu'on est là pour ça. Et Colombe Schneck, je l'ai relue récemment parce que je l'ai proposée à l'un des clubs de lecture auxquels j'appartiens. Et donc j'ai relu ce tout petit bouquin que je me souvenais avoir adoré, qui s'appelle « Val-de-Grâce ». C'est ancien, relativement ancien, mais ça se trouve toujours en occasion, en poche ou sur commande chez les libraires. Je crois que ça date de 2008. Et alors, Val-de-Grâce, c'est le livre des paradoxes, de la provocation, du bonheur et de la fuite. Alors, les paradoxes, Val-de-Grâce, c'est un appartement, un grand appartement de 200 mètres carrés dans le quartier et la rue du même nom, totalement extravagant, avec des murs tapissés de papier argenté, doré, avec des objets très chers, trop chers, comme le dit elle-même la narratrice, avec des parents extrêmement aimants et assez étonnants. Et des enfants, finalement, qu'on pourrait dire très mal élevés. Alors, la narratrice nous dit « Pour définir notre état et nous justifier, nous avions une expression, de la mousse ou de la crème ?» Un jour où Madame Jacqueline, c'était la gouvernante, femme de ménage, personne qui venait tous les jours jusqu'à 19h, etc., nous préparait une mousse au chocolat, un des enfants a demandé « Et pourquoi pas de la crème? Je préfère la crème au chocolat. » Madame Jacqueline a alors transformé sa mousse en crème. Un autre enfant a alors exigé de la mousse. Madame Jacqueline s'est remise au travail et nous avons avalé les deux desserts avec un mélange de honte et de joie. Et, dit-elle, tout ça nous fait rire. Un désir? De la crème ou de la mousse? Il suffisait de demander. Une poupée? Un livre? Une séance de cinéma? Se promener sur le toit de l'opéra? Aller voir le monstre du Loch Ness en vrai? Les cow-boys? Se baigner pendant les vacances de Noël et continuer à inverser les saisons en allant skier au mois d'août, dormir à la belle étoile dans le désert, un nouveau vélo, une robe à fleurs, rencontrer Fred Astaire. Tout était possible, il suffisait de demander. Et elle raconte qu'effectivement, ils ont fait tout ça. Elle est allée danser avec Fred Astaire à 8 ans, son père l'a emmenée au bord du Loch Ness, etc. Mais paradoxe, parce que cet appartement magique, plein de couleurs, ce qui ne se faisait pas à l'époque, d'objets précieux, etc., petit à petit, ça se délite, ça s'effrite. Madame Jacqueline disparaît, puis l'argent, puis la mer. Et ces 200 mètres carrés qui tiennent lieu de tout, de passé, de présent, de futur, il va falloir les quitter aussi. Et le père disait à ses enfants, les parents ne doivent rien aux enfants. Et ils, pardon, excusez-moi, c'est le contraire, parce qu'on a l'habitude de dire ça. Les enfants ne doivent rien aux parents, et les parents doivent tout aux enfants. Et leur disait le père, l'essentiel, c'est de vous fabriquer des souvenirs. Et avec ce petit livre et cet appartement merveilleux, Colombe Schneck s'est fabriqué des souvenirs. Et elle nous en fabrique aussi. Mais en filigrane dans ce livre, il y en a un deuxième qu'elle a écrit 10 ans après et dont je vous parlerai si nous avons quelques minutes.
Tu peux en parler de suite, comme ça. Sinon, Vous savez, c'est le genre de choses... on en parlera plus tard, et puis du coup, on n'en parle pas.
Alors, le deuxième qu'elle a écrit 10 ans après, ça s'appelle « Les guerres de mon père ». Et c'est là qu'on découvre pourquoi ce père était si follement aimant, si follement indulgent, si follement extravagant. Autre exemple de son extravagance, un matin au petit déjeuner, la narratrice lui dit que sa moustache pique, qu'elle n'aime plus sa moustache. Le père se lève, il revient, il s'est rasé la moustache. Voilà, elle avait 8 ou 10 ans quand elle émettait ce genre d'injonction. Et là, elle éclate en sanglots parce que c'est trop. Et elle réalise que c'est trop d'être aimée à ce point, sans condition, sans limite. Et on comprend dans le deuxième livre pourquoi ses parents ont été ses parents magiques et extravagants. Tous les deux étaient issus de familles juives, bien sûr. Leurs racines étaient en Pologne, en Lituanie, en Bessarabie, comme elle dit, dans des pays qui n'existent plus maintenant. Et toute la famille a été plus ou moins déportée. Certains ont échappé à la déportation. Et son père, par exemple, alors il y a une petite cousine de 10 ans qui a été déportée, qui est morte, des oncles, des tantes, des grands-parents. Et son père a été caché. Il a fait partie des enfants cachés. Et il a été caché en particulier en Haute-Garonne, je crois, l'espace d'un été. Et elle remonte les pistes, elle recherche les gens qui ont aidé, qui ont sauvé, qui ont caché son père. Et à la fin de chaque chapitre de ce livre, elle les remercie. Elle dit « Merci d'avoir sauvé mon père de 11 ans. Merci d'avoir caché mon père de 12 ans. » Et tout ce qu'il a retenu, qu'il a voulu retenir de cette période, c'est que pendant cet été en Haute-Garonne, il a appris à pêcher la truite à la main. Et l'un des amis de son père... Le père est mort, dit à Colombe Schneck, ou à la narratrice, tout ce qu'il disait de la guerre, c'était cette histoire de truite. La seule chose que je peux te dire, c'est que ton père était un homme délicieux et généreux, que cette manière d'être au monde était une forme de politesse. Il aimait partager ce qu'il y a d'heureux. Et ces quelques semaines cachées dans une famille à la campagne où il a appris à pêcher la truite à la main sont des moments très heureux qu'il chérissait et qui lui ont permis d'être ce qu'il est devenu. Et voilà la clé de cette enfance merveilleuse. Pas si mal élevée, la narratrice, puisqu'elle est devenue apparemment quelqu'un qui sait prendre de la distance et qui finalement s'est résolue à ne jamais être aimée aussi éternellement et aussi extraordinairement qu'elle l'a été par son père et par ses parents. Elle dit « J'ai appris à aimer et à être aimée ».
Alors, merci Hélène. Alors, rappelons les titres. Colombe Schneck, donc celui dont tu viens de nous parler, « Les colombes de mon père ».
Les guerres de mon père.
Les guerres. Colombe Schneck, Les guerres de mon père, c'est aux éditions Stock. Et puis Val de Grâce, qui est en poche aux éditions J'ai lu, on peut le trouver. Voilà, merci. Pierre, tu vas nous parler maintenant d'un. Alors, je ne sais pas si c'est un ou une, Raja Rao.
Oui, c'est un auteur indien, c'est l'un des grands écrivains indiens du XXe siècle. Mm-hmm. Alors, il se trouve que c'est peut-être un auteur pour cette émission, puisqu'il a non seulement vécu à Montpellier, mais il s'est marié ici avec Camille Mouly, donc une Française. Alors, il est né c'est un Indien du Sud, un Brahman. Il a appris le français au collège. Il était dans un collège musulman, ce qui est typique de l'Inde. On peut être hindou et être dans un collège musulman ou le contraire. Et dans la tolérance qui est générale, qui est pas non plus absolue, malheureusement. Il a appris... ensuite, il était à l'université de Madras. Il arrive en 1929 ici. Il va rester à Montpellier, puis à la Sorbonne. Et dans ses livres, le plus célèbre est peut-être Kantapura, qui est un livre gandhien. C'est l'histoire d'un village. C'est vraiment un roman. C'est un village dont l'un un jeune homme dans la grande ville, découvre les idées de Gandhi. Ça se passe dans les années 30, donc en pleine période coloniale. Et on voit comment ce village va se battre pour l'indépendance dans ce mode de pensée. Alors ici, je vous apportais le serpent et la corde, qui est un un livre assez curieux, parce que c'est à la fois semi-autobiographique, on peut dire même trois quarts ou 90% autobiographique. Camille, sa femme, donc, devient Madeleine. Et c'est un livre assez ardu. Par contre, ça peut vraiment passionner tous les auditeurs qui s'intéressent à l'Inde, bien sûr, mais d'une manière générale, à d'autres cultures, à d'autres manières d'être au monde. C'est un livre assez philosophique. Il a beaucoup de discussions. Il y a beaucoup de discussions, bon, avec sa femme aussi, avec ses amis en Inde avec lesquels ils s'écrivent, des amis à Londres. Et Madeleine devient bouddhiste. Au départ, elle était athée, et donc avec son mari Brahman, elle devient tellement bouddhiste qu'elle finit... alors c'est assez douloureux, parce qu'elle devient une ascète extrêmement sévère. Ils sont un peu comme des frères et sœurs, ou même des étrangers. Et alors il y a à la fois donc son journal et beaucoup de réflexions, de discussions. Et c'est pas un livre dans lequel on rentre comme un conte de Noël de Dickens, mais c'est pour ceux qui s'intéressent, c'est bien. Voilà, j'ai aussi, je peux vous parler du manteau de Gogol.
Alors, oui, pourquoi pas. Alors, rappelons d'abord...
Raja Rao.
Alors, oui, c'est bien que tu nous parles un petit peu de littérature indienne, parce que c'est vrai que l'Inde, c'est tout un continent, on pourrait dire, et un continent littéraire aussi.
Oui, un grand continent littéraire.
Et qu'on connaît... très, très peu, en fait.
Oui, c'est vrai, oui.
Il y a quelques noms comme ça, des Banerjee ou des gens...
Oui, alors Banerjee.
Tagore, ou voilà. Des gens comme ça. Mais, et puis après, c'est fini, quoi. On a un trou.
On peut dire qu'en France, on connaît beaucoup, finalement, la littérature indienne. Le plus, pour beaucoup, se résume à Salman Rushdie. Et puis peut-être un ou deux autres. Mais... la littérature indienne qui se lit aujourd'hui en Occident, c'est une littérature qui est métisse. Ça ne veut pas dire qu'elle ne soit pas intéressante, au contraire. C'est-à-dire, c'est souvent une littérature d'Indiens qui vivent en Californie, qui écrivent en anglais ou qui vivent en Angleterre. Bon, disons que la Californie est en train de remplacer l'Angleterre. Ça fait partie évidemment de l'évolution du monde, l'évolution économique, la Silicon Valley. Et il y a par exemple un roman récent qui n'a pas été traduit en français, qui s'appelle A Night at the Call Center, que je n'ai pas encore lu, mais je sais qu'il est. Il vous montre ce que peut être la vie pour des gens qui travaillent dans un centre d'appel. Alors on sait qu'il y en a beaucoup au Maroc, maintenant à Madagascar, et c'est un monde absolument énorme aujourd'hui. Vous savez, par exemple, il y a 250 000 personnes qui travaillent en France dans l'ombre pour les GAFA, c'est-à-dire les petites mains qui corrigent des petites erreurs. Bon, ils sont en fait, c'est à nouveau, on est dans Dickens. Hein. Et est-ce qu'il y a un seul roman qui est sorti sur ces 250 000 personnes en France qui font ce travail? Non. Alors, en Inde, donc, il y a Night at the Call Center, d'un auteur qui est jeune, hein, qui a travaillé dans une grande entreprise indienne, je ne sais plus laquelle. Et au XXe siècle, il y a quelques géants. On peut dire qu'il y en a au moins... Enfin, il y en a, on dit trois géants, disons, des années 30, 40, 50. C'est Raja Rao, donc, qui est passé par Montpellier. C'est Mulk Anand qui a écrit surtout un livre, d'ailleurs qui avait été relu par Gandhi, qui s'appelle L'Intouchable, et qui est l'histoire d'un intouchable qui lave les toilettes. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, évidemment, socialement. Et puis le troisième, c'est... j'ai plus son nom en tête, c'est l'auteur du... en tout cas d'un livre qui s'appelle Le Professeur. Ah oui, c'est Narayan. R.K. Narayan. Qui d'ailleurs, Détroit, est le meilleur parce que c'est savoureux, c'est extrêmement vivant. Il a créé une sorte de comédie humaine, toujours dans le sud de l'Inde, qui s'appelle Malgudi.
Bien, alors on voit que tu connais bien ce monde-là. Je pense qu'il nous faudra faire, cours de l'année prochaine, une émission spéciale littérature indienne.
Avec plaisir.
Voilà, alors je vais passer la parole à Laurence. Laurence, tu voulais nous parler de Didier Van Cauwelaert.
Voilà, donc je vais vous parler de Didier Van Cauwelaert, qui est un auteur que sans doute beaucoup d'entre vous connaissent, puisque c'est un auteur très prolifique. Il a eu un prix Goncourt en 1994 pour un titre qui s'appelait « Un aller simple ». Mais moi, en fait, cet auteur, je ne le connaissais pas. Je viens de le découvrir par le titre de le livre qui s'appelle « Le journal intime d'un arbre ». Donc c'est un livre qui a dû sortir il y a 7-8 ans, peut-être. Didier Van Cauwelaert, le dernier titre qu'il a sorti s'appelle « Les émotions cachées d'un arbre ». Ça, c'était en 2018. Et le dernier titre 2019, c'est « La bienveillance est une arme absolue ». Donc, on voit par ces titres que ce qui concerne beaucoup cet auteur, c'est une forme d'harmonie universelle entre les humains, mais aussi avec l'environnement, l'écologie, les êtres vivants dans leur ensemble. Et en fait, le journal intime d'un arbre, eh bien, c'est exactement ça. Il raconte, le protagoniste de ce roman, puisque c'est un roman, est un arbre, un poirier. Voilà, donc il se met dans la peau du poirier.
Et on va dire dans l'écorce plutôt.
Dans l'écorce, voilà, dans l'écorce du poirier. Et ce poirier, on fait sa connaissance le jour où il meurt. Alors voilà, je vais vous lire les premières pages pour vous donner un peu le ton.
Passionnant.
Alors, la chute. Je suis tombée au lever du jour. Transmise par la lumière sur mes racines et le contact de mes branches avec la terre, l'information m'a été confirmée par le facteur. Je me suis vue gisant dans ses yeux en travers de l'allée. Sa première pensée a été pour le docteur Lann. Le pauvre, quand il rentrera. La tristesse que j'allais causer à mon propriétaire s'est mêlée à tous les signaux de détresse que je percevais autour de moi. Insectes, oiseaux, champignons, tous avaient perdu mon repère. Je m'accrochais à l'espoir qu'on allait peut-être me sauver, comme le catalpa derrière le garage qui s'est couché lors de la tempête de 1999. On l'avait redressé avec un treuil, et depuis, il survivait de son mieux, maintenu par trois câbles ornés de chiffons. Mais à travers les yeux du facteur, j'ai bien vu que mes branches charpentières s'étaient brisées dans la chute. Déracinées, décapitées, j'avais en tout cas épargné mes congénères, les voisins, les toitures et la tonnelle qui courait la glycine. Je ne laisserai pas de mauvais souvenirs. Voilà. Donc, cet arbre a un nom, il s'appelle Tristan, et il y a un deuxième poirier qui est à côté qui s'appelle Isolde. Donc, voilà.
Histoire de Tristan et Isolde. Voilà,
Tristan et Isolde. Et,
qui étaient des bonnes poires, c'est bien connu.
Voilà. Et en fait, ce qui est intéressant dans cette façon d'envisager les choses, c'est que effectivement on voit tous les liens et visiblement la science petit à petit confirme ces intuitions que l'on a, que les êtres vivants sont tous interdépendants, y compris ceux qui ne sont pas de la même espèce, de la même, voilà. Donc je suis tombée dedans. Voilà, donc je n'ai pas terminé. En fait, il y a une intrigue qui se noue. Il y a une petite voisine qui est une enfant qui, le jour où il tombe, vient commencer à sculpter dans ses racines. Le fait de se retrouver débité en bûche ne va pas provoquer la fin de la conscience de cet arbre qui va rester dans le morceau sculpté par cet enfant qui devient une grande sculptrice. Et donc on part dans la vie. Alors à la fois il y a des retours sur le passé, parce que cet arbre a 300 ans, c'est un poirier qui a été placé, plantée sous Louis XV. Voilà, donc ça fait, c'est une sorte de fresque à la fois historique avec une intrigue et aussi le mélange et cette notion d'harmonie et d'interdépendance.
Ce que je trouve intéressant, c'est que en plus, ce qu'il écrit est complètement en résonance avec la recherche scientifique les plus récentes, hein, les recherches scientifiques les plus récentes, où on découvre que les arbres communiquent, que les arbres savent faire venir la pluie. Hein, c'est des gens comme Francis Allais et quelques autres qui nous ont montré ça, oui, que les arbres, c'est tout un monde. Alors, en t'écoutant, ça me faisait du coup penser à... Je le recommande comme ça, comme cadeau à nos lecteurs, un beau livre, si c'est encore disponible. Il y avait un magnifique recueil de poésie de Prévert qui s'appelait Arbre, pas très connu, chose, oui. Avec des illustrations magnifiques de Georges Ribemont-Dessaigne. C'était chez Gallimard. Et voilà, si vous aimez les arbres, eh bien, voilà, c'est un beau cadeau à offrir. Et puis il y a plein de belles choses sur les arbres. Mmh. Voilà, une littérature arboricole, c'est formidable.
Est-ce que tu peux nous dire juste trois mots? Tu as cité Francis Allais, juste pour qu'on en sache.
Francis Allais, qui est un biologiste, qui a beaucoup travaillé sur les arbres, qui a travaillé sur la canopée, ce qu'on appelle.
Ça s'écrit comment?
Écrit H-A-L-E, accent aigu, je crois, tout simplement. Peut-être deux L. Hein, et qui avait fait ce qu'on appelait le radeau des cimes, qui s'intéressait aux arbres de la forêt amazonienne. Et qui regardait ce qui vivait et comment les arbres vivent. Et beaucoup d'autres chercheurs ont travaillé sur ça. Les arbres communiquent. Et oui, les arbres se préviennent qu'il y a un feu. Et ainsi, des choses comme ça. C'est assez extraordinaire.
Et donc, un titre de 2018 de Didier Van Kovelaert, que je lirai certainement derrière celui-ci, s'appelle « Les émotions cachées des plantes ». Voilà. Donc
voilà. Didier Van Kovelaert est en branché sur la recherche botanique la plus poussé. Voilà. Bon, eh bien moi, j'aurais de nouveau pas eu le temps de parler au loin une montagne de Chongrunier, une bande dessinée chinoise. C'est magnifique. Allez voir ça, allez vous le feuilleter dans une librairie et vous le procurer. C'est un très beau cadeau à faire. Ça parle de la révolution culturelle et de ses aberrations avec une grande poésie graphique. Merci à tous pour ce bazar. Merci à Rongemaille, à la technique. Et à très bientôt. Lecture par tous.
C'est un dialogue.
L'émission qui vous parle des livres.
C'est une gymnastique intellectuelle extrêmement bénéfique pour le cerveau.
Des métiers du livre, des lecteurs.
Les jeunes n'ont pas perdu le goût de la lecture.
Et de leur lecture.